Il faut aimer la forêt amazonienne, la couleur d'aube du sous-bois, l'odeur grasse de la terre, le cri des animaux, ces invisibles témoins de notre marche, de notre effort. Le sentier est à peine de la largeur de notre poitrine et les fougères, les palmes plaquent sur nous comme une sorte de caresse humide. On avance, attentif au frémissement des lianes ou à l'entaille sur l'écorce des arbres qui signale le passage des porteurs de tête. De temps en temps, les compagnons imitent l'appel des oiseaux où ils frappent du machette les grandes racines sonores pour avertir d'un danger, des guêpes, un marécage ou des serpents. Et ainsi, peu à peu, on se dépouille des vieilles habitudes. On passe réellement et jour après jour de notre monde, celui qui nous est familier, à celui des Indiens. Car le but bien entendu, est de trouver la clairière où vivent les hommes de l'Amazone, de s'asseoir à leur foyer, d'écouter leurs confidences, en somme, de devenir leur ami.
Box.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Non, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À Maurice Chardot.
À défaut de réinventer le futur, chaque samedi à 19h sur France Culture, Jukebox ressuscite le passé via un texte, des archives et des musiques choisies. Voyage ce soir en Amazonie qui concentre ces derniers mois les attentions planétaires à mesure que l'explosion spectaculaire des incendies chroniques met en lumière l'inexorable amenuisement de l'une des plus grandes forêts primaires du monde. L'Amazonie, située pour sa plus grande partie au Brésil, dont soudain l'humanité s'empare comme d'une croisade au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, dénonçant les manières de cow-boy du nouveau président en place, encourageant ouvertement le carnage. Cette Amazonie, dont nous savons si peu malgré les récits anciens des explorateurs, suscitant plus de fantasmes et d'exotisme que d'intérêts réels, agitant nos tardives passions contemporaines pour la biodiversité, tout en négligeant les derniers habitants indigènes qui brûlent au pied des troncs, ce soir, l'Amazonie, terra incognita. Les flots boueux filent contre les flancs de la pirogue qui s'élance entre les murailles sombres. Au-delà du lit du fleuve dont le cours s'élargit ou se rétrécit, derrière ce double rideau végétal s'oppose l'extraordinaire rumeur de la forêt. Ce bruissement assourdissant que ne parvient pas à couvrir le pauvre moteur crachotant que le type à l'arrière pilote, l'air détaché parmi les remous, les contre-courants, les vagues des embarcations qu'on croise et qu'on dévisage lentement, on n'est jamais trop sûr. Bientôt, le déluge de la saison des pluies va s'abattre et chacun aimerait rentrer au plus vite chez soi, éviter les pannes mécaniques et les aléas, les jours immobilisés au milieu de nulle part, dans l'espace réduit de l'embarcation, parmi les autres humains, les régiments de bananes ou les cargaisons en tout genre. La plupart du temps, de part et d'autre, du voyage, on ne voit rien que cette muraille végétale compacte dont on détaille les espèces qui nous escortent, mais qui nous cachent les hommes seuls, les villages, les femmes énigmatiques et même un vieux qui lit des romans d'amour. On se prend à espérer autant qu'à redouter ces escales, tant le danger et l'incertitude peuvent y surgir plus férocement que les crocodiles des eaux sales. D'autant que, depuis quelques heures, une menace se diffuse de pirogue en pirogue. Des escouades de bûcherons clandestins arrivés depuis peu seraient à l'œuvre. Ces bûcherons qui, comme les garimpeiros et leur soif d'or, sèment le sang dans leur sillage. Alors, tandis que la nuit tombe, on guette les plaintes des tronçonneuses et le fracas de l'affaissement des troncs. L'oreille se dresse, à l'affût des bruits de bottes.
É fruta do mato.
Posso aqui.
deixa as fraldas ao vento.
Laisse la forêt pousser en paix, laisse l'Indien vivre dans l'arrière-pays, laisse le tatou à sa place, laisse le tapir traverser le ruisseau. Je ne veux pas de feu, je veux de l'eau. Ainsi chantait en 1987 Tom Jobim, l'un des pères, avec Vinicius de Moraes, de la Bossa Nova, habité très tôt par une conscience écologique et qui s'inquiétait ici, lui, l'amoureux des oiseaux, des ravages causés sur les herbes sauvages, les animaux de la forêt primaire, par les borzeguim, du nom ancien donné aux bottes des soldats de l'armée brésilienne, mais aussi par la suite à celles des paysans, chasseurs et travailleurs en tout genre, ceux-là même qui, aujourd'hui, placent l'Amazonie au cœur de nos préoccupations. préoccupations. Va-t'en d'ici, nuisible, lance Jobim dans la chanson. Par où aborder l'Amazonie, ces 6 millions de kilomètres carrés, ce poumon de la planète, même si les océans et leur phytoplancton génèrent davantage encore de l'oxygène dont nous finirons par manquer? Eh bien, si Jobim veut l'eau plutôt que le feu, abordons-la par là même où les Portugais l'avaient fait il y a 5 siècles, par l'Atlantique, là où se déversent les flots monstrueux et éclatés du fleuve qui donna son nom à la zone, à Belém, cet autre Brésil, celui du Nord, adossé aux 400 millions d'hectares du massif amazonien. Belém, référence à la Bethléem biblique, où l'on peut, en se tournant vers l'ouest, embrasser la naissance de la canopée qui nous intéresse, mais où l'océan, invisible, charrie poissons et pêcheurs. Jadis ici, on avait vu débarquer les galères des Noirs venues du Dahomey, l'actuel Bénin. Siècle après siècle, y avaient accosté vaisseaux négriers, caravelles européennes, créant au gré des métissages un creuset auquel s'étaient adjointes les influences caribéennes et, dès les années 1940, les ondes des radios colombiennes, cubaines ou dominicaines. Dans les années 60 ou 70, ignorant plus ou moins l'Amazonie voisine, Belém domptait la chaleur de ses nuits frénétiques. Parmi les groupes qui occupaient le terrain, Os Muirahquitans, récemment sorti de l'oubli par le label Analog Africa.
Vocês misturaram siriá com carimbó. Alô, pinduca, vereque, tipo feijó. Vocês misturaram siriá com carimbó. Tem carimbó no sul, tem lá no Ceará. Tem o grupo da pesada lá em Belém do Pará. Tem carimbó no sul, tem lá no Ceará. Tem o grupo da pesada lá em Belém do Pará. Lá em Marapani, dancei carimbó na praia. Era o ritmo gostoso dos brasas da marambaia. Lá em Marapani, dancei carimbó na praia. Era o ritmo gostoso dos brasas da marambaia. Vamos embora! Vocês misturaram siriá com carimbó. Alô, pinduca, vereque, tipo feijó. Vocês misturaram siriá com carimbó. Agora eu vou mandar a turma arrastar o pé ao som dos muirahquitans da cidade de Abaeté. Agora eu vou mandar a turma arrastar o pé ao som dos muirahquitans da cidade de Abaeté. Alô, pinduca, vereque, tipo feijó. Vocês misturaram siriá com carimbó. Alô, pinduca, vereque, tipo feijó. Vocês misturaram siriá com carimbó. Agora eu vou mandar a turma arrastar o pé ao som dos muirahquitans da cidade de Abaeté. Agora eu vou mandar a turma arrastar o pé ao som dos muirahquitans da cidade de Abaeté. Agora eu vou mandar a turma arrastar o pé ao som dos muirahquitans da cidade de Abaeté. Agora eu vou mandar a turma arrastar o pé ao som dos muirahquitans da cidade de Abaeté. Agora eu vou mandar a turma arrastar o pé.
A Misturada, publié en 1976 par le groupe Os Muirahquitans. Quelques heures de navigation plus tard, Belém, le souvenir de ses rythmes chaloupés, s'estompe, tandis que, s'enfonçant entre des murailles vertes enserrant le cours du fleuve, l'environnement sonore, depuis longtemps déjà, a mué en une masse compacte, continue, d'une absolue diversité. Les hurlements gutturaux d'une bande de singes alouates, le piaillement des milliers d'espèces d'oiseaux, les déplacements des mammifères, le craquement des branches, le glissement des amphibiens et des reptiles, le chahut des millions d'insectes. Un bruit encore différent de celui qui, 50 ou 60 mètres plus haut, irrigue la canopée. L'Amazonie, c'est d'abord ça, cette onde permanente, végétale, animale, sensorielle, luxuriante, l'exotisme poussé au plus haut, comme le rapportait en 1935 un Blaise Cendrars envoyé du quotidien Le Jour pour une sorte d'article publicitaire en transatlantique dans la forêt vierge, lu sur France Culture en 1990.
Sous la voûte des arbres géants, règne une pénombre verdâtre qu'égaient à peine les lianes fleuries qui pendent des plus hautes branches. Parmi les plantes mystérieuses et sacrées, démoniaques, que l'Amazonien dérobe au péril de sa vie à la sylve sauvage, à la sylve étouffante qui l'assiège, des lianes, des arbustes, des fougères, des épines, des tubercules, des palmiers, des mousses, des champignons, bénéfiques ou maléfiques, qu'on abreuve de sang ou qu'on gave de viande, diurnes ou nocturnes, dont certaines aboient comme des chiens à midi, dont d'autres sont mélodieuses dans le vent, et d'autres encore piquent des crises nerveuses, comme des sensitives, quand le temps va changer. Plantes qui piquent, brûlent, égratignent, s'attachent, adhèrent, coupent, forent, scient, collent, distillent des parfums la nuit, ou sont nauséabondes au clair de lune, sternutatoires ou endormantes, et dont les fruits, les feuilles, les bourgeons, les racines, l'écorce, le pollen, la graine sont des poisons, des fébrifuges ou des stupéfiants, dont l'homme des bois sait extraire des poudres ou de la râpe, des teintures ou des sirops, de la moelle ou de la résine, des alcools ou des goudrons, de la gomme ou des cristaux qui entrent dans la composition, souvent à doses infinitésimales, des élixirs ou des eaux tophanes, des drogues divinatoires ou des filtres d'amour, des farines de santé ou des décoctions de mort qu'il prodigue à bon escient. Parmi ces plantes, il en est une, la plus rare, la plus magique de toutes, mais qui ne manque dans aucun jardin secret, qui pousse derrière chaque hutte indigène, et dont chaque Amazonien porte un petit sachet de feuilles sèches sur soi, et qui est la plante la plus mystérieuse de la forêt amazonienne, car jamais aucun blanc n'a pu s'en procurer un plant. Que les savants d'Europe, qui ne la connaissent que par ouï-dire, ont catalogué provisoirement, à cause des effets psychiques qu'elle a quand on en use, parmi les poisons les plus dangereux de l'intelligence, ceux, comme ils disent, qui agissent sur le seuil de la conscience. Mais que tout Amazonien fume tranquillement dans son brûle-gueule. C'est l'ibadou, la plante de la lévitation, plante légendaire, grâce à laquelle l'homme de la nature, ce prisonnier de la forêt, voyage. Sans être comme nous, obligés d'emprunter le navire ou l'avion.
Yeah.
L'OVNI Ima Sumac, né en 1922 dans les Andes péruviennes à l'autre extrémité de l'Amazone, près de l'une de ses sources, et qui très tôt s'était initié au chant dans la montagne, imitant le pépiment virtuose des oiseaux, devenant par la suite la diva aux plus de 4 octaves et qui, sa vie durant, avait célébré les charmes et les mystères des Andes ou de l'Amazonie, comme dans ce Chuncho, les créatures de la forêt de 1953. Entre ses sources péruviennes et l'aboutissement du fleuve plus bas à Belém, l'Amazone déroule ses 6400 km de cours, un peu moins à vol d'oiseau. À mi-chemin environ, ces derniers peuvent voir surgir du ciel un autre ovni, architectural celui-ci, point de fixation des appétits occidentaux, excité à la fin du 19e siècle par les fièvres du caoutchouc, Manaus, une ville dans la jungle. Manaus, fondée en 1669 par les Portugais sur la rive gauche du Rio Negro et qui, longtemps, était restée un petit comptoir fluvial doublé d'une bourgade cossue qu'on avait fini par rebaptiser du nom de la tribu indienne du coin. Jusqu'à ce que la fièvre du caoutchouc, donc, ne s'empare de la planète, faisant alors du Brésil son dealer exclusif. Asseyant la fortune de Belém au débouché du fleuve, mais aussi celle de Manaus, qui, brutalement, était devenue sans doute l'une des plus prospères cités du monde. Les barons du caoutchouc, comme on les appelait, cigares aux lèvres et poches pleines de réaux, y avaient bâti une ville à l'européenne, arrosant ce conglomérat de 30 000 âmes. De larges rues, des bâtiments à arcades, des palais, des églises, des tramways, une centrale électrique alimentée au charbon de bois. Le téléphone installé sur place avant même d'alimenter Rio de Janeiro ou São Paulo. Et puis surtout, un opéra. À l'égal des plus fastueux d'Europe, le Teatro Amazonas. Inauguré en 1896, à l'issue de pharaoniques travaux financés par les largesses du caoutchouc dont les barons, en retour, s'y voyaient attribuer une loge à vie. On avait fait venir les pierres du Portugal, les marbres de Carrare, les tapisseries de France, les tuiles de la coupole d'Alsace, les lustres de Murano, créant une salle à l'acoustique rare, faite de bois et de métal, sa décoration baroque et clinquante, sa façade rose, ses portos ou ses cognacs hors d'âge dégustés entre soi à l'entracte, jusqu'au sol devant l'édifice pavé de caoutchouc pour atténuer le bruit des chevaux et des attelages qui s'y garaient. Des mesures de cet opéra dont la salle fait penser à la Scala ou à l'Opéra de Paris et qui surgit de la jungle comme dans un rêve ou bien devant la caméra de Werner Herzog au début de son Fitzcarraldo dans lequel le personnage du même nom, interprété par Klaus Kinski, débarque dégoulinant en pleine nuit dans une pirogue dont le moteur a lâché pour venir, fébrile et possédé, écouter le grand Caruso chanter l'Hernani de Verdi.
Madame, monsieur, je regrette. C'est une soirée de gala.
Mais nous venons d'Iquitos. Nous avons fait 2000 kilomètres sur l'Amazone. J'ai fini à la rame. Nous étions en panne.
Il a les mains en sang.
2 jours et 2 nuits à la rame pour voir le grand Caruso une fois dans ma vie.
Malheureusement, sans billet, c'est impossible.
Je vous assure que ce monsieur doit à tout prix entrer. Il n'a pas de billet, mais il en a le droit. Je vous en prie.
Dans le film d'Herzog, Fitzcarraldo, passionné d'opéra, fabrique des pains de glace, mais il rêve plus grand, il rêve à la démesure de l'Amazonie, il rêve de construire son propre opéra à Iquitos, plus en amont, jusqu'à ce qu'une autre opportunité ne se présente à lui.
Regardez, là, du Pongo au confluent de l'Ucayali, s'étend mon territoire.
Ce carré, qu'est-ce que c'est?
Ah, ça, c'est la zone des VA de l'Ucayali. Elle compte environ 14 millions d'arbres à caoutchouc. Jusqu'ici, elle n'a toujours pas trouvé preneur. Pour franchir les rapides du Pongo das Mortes, il faudrait avoir des ailes comme les oiseaux. Non, non, c'est un paradis inaccessible.
Je ne vois aucun carré sur le Pachitéa. Pourquoi?
Sans intérêt. Il n'y a pas d'EVA. Enfin, quelques-uns peut-être, mais pas assez pour en rentabiliser l'exploitation. La seule chose qui pullule dans cette région, ce sont les sauvages. Mais à part ça, ni or, ni caoutchouc, ni rien. Rien que des chasseurs de têtes. Deux pères ont été victimes des réducteurs de têtes. Vous avez déjà vu une tête en réduction? Oui. Enfin, non. À vrai dire, non.
Les têtes réduites, c'est tsantsas pratiqué par les Chuars, tribu qualifiée à tort de Jivaro par les premiers colons. Ces pratiques terrifiantes qui, depuis plusieurs milliers d'années, permettaient à ces tribus de se venger d'un homme, de s'en prémunir en conservant l'âme, mais aussi l'enveloppe crânienne, au préalable décapitée et asséchée. Ces têtes réduites qui, longtemps, avaient alimenté les légendes les plus sanguinaires concernant ces indigènes.
Il y a silence et silence. Et ce silence m'inquiète.
De fait, pour se prémunir de ce périlleux rituel, Fitzcarraldo, descendant le fleuve à bord d'un vapeur, soudain confronté à la menace des tribus invisibles, avait tenté d'en amadouer la méfiance, diffusant, via un gramophone posé sur le pont de son navire, la seule beauté qu'il avait sous la main, la voix de Caruso, encore lui, chantant Il Sogno, tiré de l'opéra de Jules Massenet.
Maintenant, Caruso.
Caruso chantant Il Sogno tiré de l'opéra Manon, enregistré en 1904. La forêt amazonienne qui, lors de l'arrivée sur le continent des caravelles portugaises en 1500, avait opposé sa masse compacte et impénétrable aux volontés conquérantes des conquistadors. Longtemps, les colons avaient donc esquivé le problème, se contentant de coloniser les côtes brésiliennes du côté de Belém, sans s'enfoncer plus avant dans la forêt. Quelques décennies plus tard, un Espagnol, Francisco de Orellana, avait fini par se lancer et était parti explorer le fleuve depuis l'estuaire. Au cours de l'expédition qui lui en avait fait remonter le cours, il avait été soudain pris entre les flèches d'une bande de guerrières recouvertes de bijoux. Il y avait vu la réminiscence des Amazones de la mythologie grecque et qualifié ainsi ce fleuve monstre et l'invraisemblable bassin versant de ses affluents. Quelques flèches, quelques huttes, des tribus isolées, donc vivant peu ou prou à l'âge de pierre. C'est à cette époque que naît une légende tenace, celle de la virginité presque totale de cet espace qui, avant l'arrivée des Européens, n'aurait été peuplé que de vagues groupes isolés, dénués de la moindre civilisation, vivant nus et peinturlurés en bons chasseurs-cueilleurs dans la boue et la jungle. On sait depuis peu que cette Amazonie n'était depuis longtemps en rien une forêt vierge. À la faveur de la déforestation, des photographies aériennes ont fait apparaître d'étranges géoglyphes, ces traces circulaires ou rectangulaires correspondant aux fondations de villages ou aux traces de champs surélevés. Des traces de labour faisant remonter à près de 6000 ans les premières expériences de culture. Cacahuètes, ananas, cannelle, manioc qui sera par la suite importé en Afrique, mais aussi cacao, des champs, des routes, des ponts, des villages, des réservoirs d'eau. Vers le XIVe siècle de notre ère, l'Amazonie aurait alors été peuplée de près de 7 millions d'individus, peut-être davantage. Ça ne dessine pas sur un territoire aussi vaste une densité très élevée, mais cela suffit à battre en brèche la conception d'une forêt vierge. Mais bon, tout cela, on ne le saura que bien plus tard. France Culture, Jukebox, ce soir, Amazonie, indignation au voyage.
Selva, luna verde sobre el agua, sombra que navega el Paraná. Llévate mi canto a tu silencio, roto por la lluvia al litoral. Suelta tu pollera enamorada, en la entraña viva de la flor. Déjame sentir todo el misterio que se lleva el río en mi canción. Por los ceibales va el aroma, ardiente pájaro del sol. Vuelo del aire por el aire, ebrio de la luz y del color. Noche de la selva milenaria, eco donde el viento halló su voz. Brisa vegetal de la madera, donde apaga el agua su rumor. Guárdame la música del río, para liberarla en mi cantar. Deja que me corra por la sangre toda tu pasión primaveral. Por los ceibales va el aroma, ardiente pájaro del sol. Vuelo del aire por el aire, ebrio de la luz y del guárdame la música del río.
Nuit de l'ancienne jungle, écho où le vent a trouvé sa voie, brise de bois végétal où l'eau éteint sa rumeur. Combien j'ai aimé la musique de la rivière de mon chant libéré. Laisse couler dans mon sang la passion du printemps. Selva Sola, la forêt de l'Argentine Mercedes Sosa en 1962. Pour l'heure, en ce début de XXe siècle, l'Amazonie fascine les lecteurs occidentaux par sa pureté originelle. Viennent s'y confronter les explorateurs en tout genre, rapportant dans leurs besaces des récits, comme, dès l'entre-deux-guerres, l'ethnologue français Bertrand Flournoy, archive RTF, 12 juillet 1950.
Eh bien, le soir, quand on rentrait dans les cases, en général en compagnie des Indiens, eux-mêmes s'asseyaient sur leur grand lit plateforme. Les femmes débouchaient les grandes jarres où sont gardés les aliments, servaient à leurs maris et nous servaient également les boissons fermentées, faites de chicha, de manioc, je veux dire, qui a été cuit, puis mâché, mastiqué et ensuite qui est mis à fermenter, qui donne une alimentation très nourrissante et très fraîche. On leur servait quelquefois des morceaux de viande s'ils avaient chassé. Et puis la soirée passait tout tranquillement en conversation entre les hommes. Quelquefois on entendait un chant isolé ou une petite flûte de pan qui donnait les 3 ou 4 notes mélodieuses que ces Indiens connaissent. Quant à nous, eh bien, nous prenions des notes, nous faisions bouillir notre soupe ou notre café, et puis nous attendions patiemment que la nuit vienne. Ce qu'il faut surtout, voyez-vous, et nous le sentions très bien quand nous entrions dans ces cases, c'était s'adapter à la vie de l'Indien. J'ai noté très souvent que quand je quittais un jeu ou un travail de ces Indiens pour le noter ou pour en noter un détail, je devenais un personnage étranger, et même, comme ils disent eux-mêmes, un sauvage. Ils acceptent qu'on partage leur vie, mais ils n'aiment pas qu'on les observe. Il m'est arrivé même souvent de voir que les Indiens cachaient mes crayons pour m'empêcher d'écrire. Ils pensaient peut-être que ces crayons étaient les flèches du mauvais sort, et je crois même que dans certains groupes de ces Indiens Yawa, ils m'appelaient le sorcier.
Longtemps à la tête du club des explorateurs, Flournoy, qui, au début des années 1950, avait également rapporté des enregistrements de chants traditionnels des tribus Yawa ou Bora. « À la différence de Lévi-Strauss qui détestait la mise en scène de la découverte et de l'explorateur, comme il l'énonçait dès les premières pages de Triste Tropique, Bertrand Flournoy, lui, se racontait volontiers, lui et sa soif de connaissance, comme ici en 1957.
Les Indiens que nous voyons aujourd'hui, quand nous les avons cherchés après plusieurs jours de marche, ces Indiens mènent une vie décadente qui n'a aucun rapport avec ce qu'était la forme de vie de leur tribu, de leur peuple autrefois, où il y avait des tabous, des interdits, des châtiments, où on faisait des guerres tribales impitoyables. Cette décadence ne doit pas nous tromper, ou plutôt, justement, elle doit obliger les gens qui observent et qui étudient les Indiens à s'intéresser davantage à leur sort, car il est impossible d'imaginer que l'Indien puisse revenir à la vie d'autrefois, à la vie qui a été celle de ses ancêtres il y a plusieurs centaines ou même il y a des milliers d'années. Et il me semble que le rôle de l'explorateur en Amazone est maintenant de collaborer avec ceux qui veulent aider les Indiens à franchir le passage et à entrer comme des hommes libres dans un monde à nous. Cela répond à notre préoccupation d'explorateur. Et sans doute, avez-vous saisi à travers les témoignages de nos camarades, que tous suivent le même chemin et que leur activité peut se résumer en ces mots, l'aventure de la connaissance.
D'où venait la réserve du second de Lévi-Strauss à faire le récit de son voyage, de ce qu'il pressentait qu'à trop baliser le trajet entre ces tribus isolées et nous, nous inciterions ces dernières à vouloir parcourir le chemin en sens inverse, quand cela, nous les conduirions fatalement à nous, à nos tristes oripeaux, Coca-Cola, télé-novelas de TV Globo et Dieux digitaux. De fait, depuis notre rencontre avec eux, les Indiens d'Amazonie meurent à petit feu. 10 millions lorsque les Portugais avaient accosté, 90% de moins dans la foulée, ravagés par les épidémies de maladies importées par les colons. Les tribus subsistantes, qui posent rapidement problème tant elles entravent les désirs d'expansion des grands propriétaires. Ces terres pourtant si peu fertiles et qu'il y a des millénaires, les indigènes enrichissaient au charbon. Au Brésil, monte alors un débat autour du statut de ces populations autochtones, un peu plus de 100 000 personnes vers 1950, mais dont le nombre n'avait cessé au cours du XXe siècle de chuter, 12 tribus de moins en moyenne chaque mois. Sous la pression des ONG, le Brésil avait décidé de légiférer en 1973, reconnaissant aux autochtones des droits territoriaux, coutumiers, linguistiques, civils et politiques, droits repris en 1988 dans la Constitution. Mais les peuples isolés, comme les recense la Fondation des Affaires Indigènes du Brésil, ne cessent de s'amenuiser à l'image des arbres de plusieurs siècles, abattus sans relâche. Drame que dénonçait 6 ans plus tôt le chanteur Vital Farias, venu du nord-est brésilien. Il raconte « Il était une fois la plus belle des forêts vertes. Sous l'eau, légendes et chagrins du caboclo, quand, soudain, le gardien de la forêt apporte un dragon de fer pour manger beaucoup de bois et mettre fin à la capoeira sans que personne n'en soit témoin. Il faut du temps pour se venger de ce qui se coupe en quelques secondes, le fruit dont les gens se nourrissent, l'oiseau, le nid, l'air et, en aval, le ruisseau, la rivière et la mer. Si la forêt avait des pieds, mon ami, je te le garantis, face au danger, elle ne resterait pas là.
Só é cantador quem traz no peito o cheiro e a cor de sua terra. A marca de sangue dos seus mortos e a certeza de luta dos seus vivos. Bonito. Floresta. No
fundo d'águas e aras, caboclo, lendas e mágoas, e os rios puxando as águas. Papagaios, periquitos, cuidavam de suas cores. Os peixes em grandes rios, curumins cheios de amores. Sorria o Jurupari, o Irapuru, seu porvir. Era flora, fauna, frutos e flores. Toda mata tem caipora para a mata vigiar. Veio um caipora de fora para a mata da finha. E trouxe dragão de ferro pra comer muita madeira. E trouxe um estilo gigante pra acabar com a capoeira. Fizeram logo um projeto sem ninguém testemunhar. Pra o dragão cortar madeira e toda a mata derrubar. Se a floresta, meu amigo, tivesse pé pra andar, eu garanto, meu amigo, um perigo não tinha ficado lá. O que se corta em segundos gasta tempo pra vingar. E o fruto que dá no cacho pra gente se alimentar. Depois tem o passarinho, tem o ninho, tem o ar. Igarapé, rio abaixo, tem riacho e esse rio que é o mar. Mas o dragão continua na floresta a devorar. E quem habita essa mata, pra onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá. Tartaruga, pé ligeiro, corre, corre, tribo dos camaiurá. Mas o dragão continua na floresta a devorar. E quem habita essa mata, pra onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá. Tartaruga, pé ligeiro, corre, corre, tribo dos camaiurá. Havia mata, hoje a perseguição. Grileiro mata poceiro só pra lhe roubar seu chão. Castanheiro, seringueiro já viraram até peão. Afora os que já morreram, como a vida e a ribação. Zé de Nana tá de prova. Naquele lugar tem cova, gente enterrada no chão. Pois mataram o índio, que matou o grileiro, que matou o poceiro. Disse um castanheiro para um seringueiro, que um estrangeiro roubou seu lugar. Pois mataram o índio, que matou o grileiro, que matou o poceiro. Disse um castanheiro para um seringueiro, que um estrangeiro roubou seu lugar. Foi então que um violeiro, chegando na região, ficou tão penalizado e escreveu essa canção. E talvez desesperado com tanta devastação, pegou a primeira estrada sem rumo, sem direção. Os olhos cheios de água, sumiu levando essa mágoa dentro do seu coração. Foi então que um violeiro, chegando na região, ficou tão penalizado, escreveu essa canção. E talvez desesperado com tanta devastação, pegou a primeira estrada, sem rumo, sem direção. Os olhos cheios de água, sumiu levando essa mágoa dentro do seu coração. Aqui termina essa história para gente de valor, pra gente que tem memória, muita crença, muito amor, pra defender o que ainda resta, sem rodeio, sem aresta. Era uma vez uma floresta na linha do Equador.
Saga da Amazonia, la saga de l'Amazone, par le chanteur Vidal Farias dans une version de concert captée en 1984 sur une scène de Salvador de Bahia. Ces menaces contemporaines sur l'Amazonie et ces 400 milliards d'arbres qui s'enfoncent toujours plus avant via les routes et les autoroutes, tracées la plupart du temps illégalement, entraînant de part et d'autre de leur sillage d'autres expropriations de terres. Des routes tracées par les exploitants afin d'y débarder le bois et de convoyer les pauvres hères qui s'en chargent. La longueur cumulée de ces routes au cœur d'un espace qu'on rêverait dédié à notre bien-être planétaire, 170 000 km. Imaginez la France et ses départementales, supprimez une route sur deux, vous avez le maillage des voies qui traversent l'Amazonie. Certes, l'espace est autrement plus vaste, mais cela en fait des arbres en moins. Depuis les années 1970, le Brésil a ainsi ratiboisé environ 20% de la forêt, l'équivalent de la Turquie. 1 million de terrains de foot en moins, a calculé Greenpeace, rien qu'entre l'été 2017 et l'été 2018. Les ravages qui s'accentuent encore depuis un an, portant leurs cendres jusqu'à São Paulo et l'émotion planétaire. Sauf que, comme derrière l'arbre se cache la forêt, derrière la déforestation se cache autre chose, tous ceux qui n'ont pas d'autre solution pour vivre. On ne peut vivre de la forêt qu'en la détruisant, note d'ailleurs Hubert Prolongeau dans son livre « Amazonie, une mort programmée ». Pour affronter la réalité, il faut s'approcher. La nature ayant horreur du vide, à la place des arbres, ont trouvé refuge un folklore de pionniers, de l'or dans le sous-sol, des chercheurs en surface, des prostituées pour atténuer les frustrations, les violences et les assassinats d'indigènes. Alors, pour faire contrepoint au crépitement lugubre de ces incendies qui se produisent naturellement chaque année pendant la saison sèche, aux portes de la forêt, les Chiquitanos dans l'est de la Bolivie perpétuent certes l'excellence baroque que leur avaient enseigné les jésuites à la fin du XVIIe siècle. À Manaus, l'opéra longtemps tombé en déshérence a rouvert ses portes, attirant la classe moyenne du coin et les touristes de passage. Quant aux traditions musicales des peuples indigènes, elles n'ont pas toutes disparu et sont collectées par les chercheurs. Mais l'Amazonie rétrécit et ces oiseaux chers à Carlos Jobim ou Ima Sumac, ces oiseaux dont le chant peuple l'Amazonie commence à se faire plus inquiet. Ils disent que les étoiles s'aimaient mais qu'elles ne pouvaient pas se marier. Amoureuse, la lune a tellement pleuré que ses larmes ont créé la rivière et la mer, chante Chico Buarque pour ces lendas y misterios de Amazonia, ces légendes et mystères de l'Amazone.
Nesta avenida colorida, a Portela faz seu carnaval. cantamos da Amazônia, cantamos neste samba original. Dizem que os astros se amaram e não puderam se casar. A lua apaixonada chorou tanto que do seu pranto nasceu o rio mar.
A lua apaixonada chorou tanto.
Jaçanã, bela como uma flor, certa manhã viu ser proibido seu amor.
Pois um valente guerreiro por ela se apaixonou, foi sacrificada pela ira do pajé.
E na vitória régia ela se amores.
Era a tradição das Amazonas, mulheres guerreiras, aquele ambiente de alegria
que terminava ao raiar do dia.
Osquindô, lalá, osquindô, lelê, olha só quem vem lá.
Lenda si misterios di Amazonia, le chanteur Chico Buarque. L'Amazonie brûle, elle continue de brûler ce mois d'octobre 2019. Selon un scénario de la Banque mondiale, au rythme actuel, 40% de la forêt aura disparu en 2050. Spectacle observé par tout un chacun d'un œil navré, la révolte au cœur des images de colonnes de fumée captées par satellite, tout en nous évertuant à pointer un coupable, la vulgarité populiste d'un dirigeant, l'incurie de l'époque, l'agro-industrie, les grands propriétaires sans scrupules, la terrifiante croissance de la Chine et le soja dont ils gavent leurs bœufs qui les feront accéder à nos modes d'épanouissement. C'est confortable la révolte à l'heure des réseaux sociaux, ça ne coûte rien, ça nous fait passer le temps. Et puis, paradoxe à cet engouement, son mode d'administration, ses smartphones qui nous permettent de nous abstraire du réel, de la foule, ces écrans qui nous changent en bétail, bien plus sûrement que les bœufs gavés au soja d'Amazonie. Mais ouf, il y a Bolsonaro, Trump et les autres. Et puis, en sortant du métro, on pourra cavaler sur une trottinette électrique, sauter dans un avion pour passer un week-end à 1000 km de là, vu que ça ne coûte plus rien. Avant d'embarquer, on n'oubliera pas de poster consciencieusement nos photos, ni de cliquer sur quelques vidéos d'actualité, constatant entre deux textos que oui, l'Amazonie brûle, faisant de nous, plus sûrement que les peuples isolés dans la forêt, une civilisation déboussolée.
De mi banquero es muy hermosa la estación de mi banquero en la selva aquí no hay
en la selva amazónica no hay primavera en la selva amazónica no hay primavera rica, no hay primavera.
Sur ce Primavera en la Selva par le groupe Chicha Libre que se referme ce numéro de Jukebox ce soir, Amazonie Terra Incognita. Jukebox, c'est Antoine Villoz à la discothèque, Amélie Briand-Lejeune aux archives, Agnès Catou à la réalisation, Amaury Chardot au micro. À la technique, c'était Jean-Michel Bernaud. Rendez-vous sur franceculture.fr pour la réécoute, la liste et les références des éléments diffusés. À samedi 19h pour un prochain Jukebox.